Bonsoir Aude-Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Corinne Rondeau et Frédéric Bonnet se font face à notre affiche dans l'atelier. L'artiste photographié dingue à Jeff Koons au Petit Palais. Et Apollinaire, le regard du poète au musée de l'Orangerie. Nous évoquerons aussi plus rapidement Early Works, œuvre de Charles Mason à la galerie Thomas Bernard, et puis Jean Genet, L'échappée belle au Mucem. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des livres de la nouvelle collection des Racines du ciel de Frédéric Lenoir et Lady Anvar, Sagesse pour notre temps et Voix d'espérance, une coédition France Culture et Albin Michel. Enfin, nous avons rendez-vous avec la soprano Patricia Petitbon qui est toute cette semaine l'invitée de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec une nouvelle exposition proposée au musée de l'Orangerie. Apollinaire, le regard du poète. Comme nous l'explique Laurence Descartes, commissaire de cette exposition, celle-ci s'intéresse à la période où Guillaume Apollinaire a été actif comme critique d'art, essentiellement entre 1902 et 1918, qui se trouve être quand même des années particulièrement fécondes pour l'histoire de l'art. Ça tombe bien, dans cette exposition, on va donc retrouver, on a parlé d'il n'y a pas si longtemps, le douanier Rousseau, Matisse, Braque ou Delaunay, le cubisme, le surréalisme, l'art africain, une section aussi entière dédiée au lien entre Apollinaire et Picasso. Corinne Rondeau au piano, non, au micro, pardon, pour commencer cette visite du musée de l'Orangerie avec vous.
Oui, on peut dire que c'est un deuxième volet de l'exposition de Douanier Rousseau, hein, puisque Apollinaire et Picasso étaient déjà dans l'exposition. C'est les soutiens essentiels à la présence de Douanier Rousseau dans l'histoire de l'art, on va dire, mais pas que. Donc on peut quand même s'approcher de cette exposition par ce biais-là. Et heureusement, d'ailleurs, que je suis allée avec ça dans la tête, parce que je dois dire que dès le début, on a déjà Picasso dans cette première salle qui nous accueille, où il y a la voix d'Apollinaire sous le pont Mirabeau. On a
la scène.
C'est la déclamation, ouais. C'est un enregistrement, ouais, de 1911, je crois. Là, la tête du fou qu'on pouvait voir d'ailleurs dans l'exposition actuelle, Musée Picasso. Paris National, je ne sais plus trop quoi.
Musée National Picasso Paris.
Voilà, c'est ça. Et donc, on a voilà, un petit environnement déjà d'Apollinaire. Mais pour le coup, ça m'a donné le sentiment d'un bel enterrement, si vous voulez. Et la première salle, donc une première salle de biographie, vraiment, avec là encore une très, très beau petit tête de Picasso. Picasso est là, il est égrené dans toutes les salles. Et je n'ai pas étonné finalement de voir cette salle dédiée à Picasso, littéralement, jusqu'au dernier tableau qui est la sortie de l'exposition vient de passer à l'autre salle dédiée à Paul Guillaume, le marchand qui a fait fortune grâce à Apollinaire, il faut le rappeler.
Il était art advisor.
Ouais, absolument. Et, ce monsieur. Et donc ce tableau, c'est la lecture d'une lettre, et c'est, on pourrait dire, après 1921, je crois, et c'est en fait, bon, l'amitié. Donc c'est vrai que cette exposition est quand même très marquée par l'amitié très forte entre Picasso et Apollinaire. D'ailleurs, le catalogue, l'introduction de Laurence Descartes le dit très explicitement. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut voir quand on ne connaît pas Apollinaire, c'est de très belles œuvres, on va dire. De très beaux choix. De Sonia Delaunay, en passant effectivement par les arts premiers, mais aussi le rayonnisme, qu'on voit peu avec l'Arionov. On voit de très belles pièces. Par ailleurs, si on connaît un peu l'histoire de l'art, on peut voir qu'effectivement, c'est un terreau. C'est-à-dire, c'est la période où il y a les mouvements que vous avez cités, mais c'est aussi l'orphisme de Delaunay, c'est aussi le rayonnisme, Gontcharova, par exemple, l'Arionov aussi. On a les rythmes colorés de Servage. À la fin, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, mais en même temps, c'est la période qui le veut. Alors, évidemment, c'est l'éclectisme. Mais je dois dire que cette exposition, j'étais un peu déçue. Sinon, les gens ont la banane, ils voient des belles œuvres. Bon. Moi, ce qui m'a manqué, c'est ce que j'ai retrouvé dans le catalogue, finalement. C'est effectivement, comment peut-on faire une exposition sur un critique d'art qu'on a quand même beaucoup oublié, parce que Apollinaire, c'est grosso modo le type qui a un bandage sur la tête, qui n'est d'ailleurs pas mort de la guerre, mais de la grippe espagnole en 1918. En même temps, c'est dans l'actualité, il faut savoir que c'est vrai, Pompidou fait aussi un accompagnement de ses collections modernes avec des acteurs de la critique, ça c'est important aussi. Alors, on peut voir effectivement ce retour, l'importance d'une critique qui est passée, qui a été toujours ce qui a accompagné les artistes, et on peut voir par ailleurs, dans le catalogue, et ça, il faut le lire, il faut avoir le catalogue sous le bras, voir à quel point l'éclectisme d'Apollinaire, qui était une critique, il a été très attaqué, il y a eu beaucoup de polémiques à cet endroit-là, de son éclectisme, était une manière aussi d'affirmer. Je veux dire, il avait une manière d'affirmer, pas que ses goûts, mais je veux dire, ce qu'il appelait l'esprit nouveau. Qu'est-ce que c'était que l'esprit nouveau ? Et donc, effectivement, quand on n'est pas, marqué par les discussions, par l'environnement, les discussions de l'époque, on passe beaucoup à côté de cette contemporanéité qu'a été celle d'Apollinaire. Donc, je veux pas non plus attaquer trop les commissaires, parce que c'est très difficile de faire une exposition. Sur quelqu'un qui a été d'abord un écrivain, un poète, et puis ensuite un critique. Et ça l'est d'autant plus que Apollinaire, avec cet esprit nouveau, a quand même largement favorisé la dimension de la métaphore, un langage d'image, et non pas un langage de discours qui soit savant. D'ailleurs, il dit « hélas, les mots sont avant ». Et ce qu'il cherche dans l'art et dans la peinture notamment, mais aussi les arts premiers, c'est justement ce qui va venir biaiser, suspendre cette question du langage de cette explication. Et la qualité, effectivement, d'ailleurs dans Le Poète assassiné, qui dédie à Picasso, l'idée de la métaphore, ce travail qui n'est pas un travail de la langue, mais justement l'enjeu de la métaphore, ce qu'il appelle de l'esprit nouveau, c'est le renouvellement profond des images. Il dit à propos d'un miroir brisé, c'est une insondable mer morte, verticale et au fond de laquelle un faux ciel animait ce qui n'existe pas. Et donc on voit bien que le travail du langage, là, est un langage d'image. Et c'est le vrai travail de la critique qui l'a légué, et en quoi on voit aussi tout ce qu'a été et ce qu'est devenu le discours de la critique. Alors ça y est un peu dans l'exposition. On a quelques bribes, notamment Le Poète assassiné, mais justement ça manque sur la question de tout ce qui environne contextuellement, je dirais, cette grande modernité qui est à la fois le début et la fin de la modernité avec Apollinaire. Hein. Je veux dire, tout ce qu'il annonce est aussi la fin, parce que 1918, on va dire, c'est Dada. D'un coup, il y a quelque chose de l'anti-moderne baudelairien qu'il était, et l'indemodernité qu'il crée qui va s'interrompre avec Dada, puisque Dada va interrompre lui-même le travail de la langue à travers même la métaphore.
Et moi, je vous interromps pour donner la parole à Frédéric Bonnet, mais on va revenir vers vous, Corinne Rondeau. Frédéric Bonnet, sur cette exposition Apollinaire au Musée de l'Orangerie à Paris.
Oui, moi je trouve que cette exposition manque un peu de corps. Elle manque un peu de liant. Alors effectivement, on y voit de très très belles œuvres. Ça, c'est indéniable, incontestable. On prend beaucoup de plaisir hein, à voir ou à revoir des choses magnifiques et ou importantes. Effectivement, comme disait Corinne, c'est difficile de jeter la pierre au commissaire sur une exposition de cette nature. Si on va trop vers le texte ou les archives, ça va devenir rasant. Donc c'est pas simple de se lancer comme ça dans une exposition sur la vie d'une époque en fait et sur les relations qui se tissent entre tous les différents acteurs qui sont convoqués. D'autant que chez Apollinaire on n'est pas seulement, là pour le coup, face à un commentateur, face à un critique d'art, mais on est face à un acteur. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'exposition, c'est que c'est assez frappant de voir le nombre de portraits d'Apollinaire qu'il y a dans l'exposition. Donc ça en fait véritablement un acteur. Il y a des photos de lui, beaucoup, notamment par Picasso, mais il y a aussi des portraits de Quirico, le plus connu évidemment, mais il y a un magnifique portrait par Delaunay qui est inachevé. Alors ça, cette caisse-là, elle est magnifique. Incroyable. Et à côté de ça, il y a un portrait moins réussi, je trouve, mais bon, par Duchamp. Donc, on est effectivement dans le jeu d'un commentateur et d'un acteur, chez qui beaucoup de centres d'intérêt, de relations, de connaissances vont se mêler. Tout ça fait un terreau très complexe qu'il est effectivement pas aisé à mettre en scène. Moi, je me suis dit à la sortie de l'exposition qu'en fait, plutôt que cette introduction un petit peu froide avec 3-4 chefs-d'œuvre dont on ne sait pas trop où ça va nous mener d'emblée, ça aurait peut-être été plus intéressant de commencer par la dernière salle, justement, qui traite de celle de sa relation d'amitié très forte avec Paul Guillaume. Et là aussi, bon, elle manque de tension, cette salle, mais elle montre quand même comment Apollinaire non seulement a fait des choix très très justes très très tôt et comment, accessoirement, entre guillemets, il a participé au lancement d'un des galeristes les plus importants de son époque. Guillaume a ouvert sa galerie en 1914 à Paris.
Il était tout jeune, hein?
Absolument.
20, 22 ou 23 ans, à peine.
Et très opportunément, dans cette salle-là, il y a une lettre manuscrite d'Apollinaire à Paul Guillaume qui lui donne tous les conseils. Prenez Fernand Léger, De Reims, ça va être compliqué. Allez-y sur Modigliani. Enfin voilà, il y a tout un panorama qui est comme ça dressé.
Il faut dire que Gallimard a publié avec
la correspondance.
L'Orangerie, la correspondance Apollinaire-Paul Guillaume.
Et ce qui est intéressant aussi dans cette salle-là, qu'on perçoit aussi dans le reste de l'exposition, mais encore une fois, ça permettait de dresser vraiment un état des choses, c'est l'ouverture vers des registres différents, avec le rappel du fait que Apollinaire a signé la préface d'un catalogue sur l'art nègre publié par Paul Guillaume, je crois, en 1915. Ça, je suis pas sûr de la date, je voudrais pas dire de bêtises, de montrer que à côté de Derain ou de Natalia Goncharova, il y a des bois de Madagascar dans la même salle, et que donc on est face à on est dans une aventure visuelle et intellectuelle d'un esprit brillant, Corinne employait le terme d'éclectisme, et qui ne va pas de soi forcément à cette époque-là. Et voilà. Après, oui, quand je dis que ça manque de corps, effectivement, on est face à un accrochage un petit peu froid, un petit peu trop tendu. Même la salle dévolue au corps et à l'érotisme, on va dire, elle n'est pas très érotique, non. En fait. Elle est un peu glaçante.
Mais on a l'impression, pour le coup, l'exposition, elle illustre le catalogue d'une certaine façon, ou qu'il faudrait aussi peut-être... Il y a souvent des documentaires qui sont proposés au moment des expositions, des grandes expositions. Il y aurait un passionnant documentaire à faire autour d'Apollinaire dans son époque, effectivement, dans ce contexte-là artistique, de reprendre aussi certaines des lettres de sa correspondance pour... Enfin, il y a un travail, il faut un biopic d'Apollinaire. Voyons, c'est ça qu'il nous faut pour voir un petit peu plus. Et sinon, effectivement, les œuvres exposées sont, pour la plupart, très... On a très envie de les voir, c'est pas la question, mais j'ai trouvé moi aussi que voilà, je ne savais pas bien où j'étais dans cette exposition.
Non, mais vous avez raison, mais je crois que les conservateurs ont quand même un défaut. Quand ils sont vraiment conservateurs, ces commissaires, c'est qu'ils savent trop. Mmh. Et à un moment donné, quand on est face à une difficulté d'exposer justement ce que pourrait être la critique à travers le fait d'avoir été acteur, et là, Frédéric a tout à fait raison de dire, ce n'est pas qu'un critique, c'est un acteur. Et la formule d'ailleurs de ça manque de corps est tout à fait juste, parce que Apollinaire, en plus, en avait un, et un sacré. Et on voit cette, je veux dire, même le combat, ils ont, entre avec Cravanne, où ils ont failli se mettre dessus, à cause de ces questions de choix et d'éclectisme notamment, on voit bien que ça manque parce qu'ils savent trop. Donc, ça suffit pas de mettre une salle où vous avez du rayonnisme, du surréalisme, du futurisme, du surréal, enfin, toutes les formes de ces avant-gardes 1910, le cubisme 1908, etc. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Même une salle où il y a du cinéma, ça ne suffit pas. Quand il dit « j'émerveille », quand il veut justement encore cet esprit nouveau, quand il dit finalement « je fais comme Méliès, finalement, je veux enchanter », bon, ben, il faudrait aussi que les conservateurs commissaires se mettent à vouloir s'enchanter eux-mêmes à travers une matière vivante. Et ce qui serait intéressant, c'est de rendre vivant Apollinaire aujourd'hui et pas de le mettre comme ben, « regardez les belles œuvres, il a été celui qui les a vues le premier, qui en a fait quelque chose dans et reportez-vous au catalogue. Alors, catalogue est super, ouais, et il a des bons textes, ils sont assez dynamiques, les textes de Cécile Debré sont assez vifs, ils sont très intéressants, mais le problème c'est qu'on peut pas à la fois passer 3 heures à lire le catalogue et passer 1 heure en disant les œuvres sont belles mais on sait pas trop. Et là, pour le coup, c'est vrai que l'une des caractéristiques d'Apollinaire, c'est la confiance qu'il fait aux gens. Au point d'ailleurs qu'avec Paul Guillaume, je veux dire, bon, ça se passe mal, il y a des petites tensions aussi avec Picasso. Il est tout le temps celui qui, dont la parole ne se dénie jamais. Il est toujours là. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut un règlement de compte à Hoquet Corral, d'une certaine manière. Et donc, justement, ça aurait pu être un enjeu aussi de l'exposition, de voir des vraies tensions, et pas simplement un panoramique de ce qu'a montré, ce qu'a vu, ce qu'a poussé Apollinaire. Et d'ailleurs, il s'attachait aux œuvres et pas au système, ce qui fait son éclectisme, et à la fois cet œil qui lui a permis de voir point par point là où il y avait l'esprit nouveau, ce renouvellement, et qui est d'ailleurs un esprit parfaitement... qui a assumé le romantisme, qui a assumé le symbolisme, qui sait exactement où ça s'arrête et où il peut commencer. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement ses classiques. C'est pas un type qui dit le nouveau, c'est le nouveau pour le nouveau. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a un esprit à nouveau et un esprit assumé et affirmé quant à ses nouvelles formes à travers justement la manière de voir avec les airs premiers comment ça se défait et comment ça se renouvelle justement.
Un dernier mot, Frédéric Bonnet, sur l'exposition Apollinaire.
Oui, surtout, je pense qu'il y a beaucoup de terrain à défricher sur ce sujet d'Apollinaire. Moi, j'ai été assez stupéfait, je le savais pas, de voir cette photo très très drôle d'Apollinaire travesti qui a écrit pendant un an entre 1909 et 1910 sous le pseudonyme de Louise Lalanne. C'est quand même des choses qui sont sans doute à creuser. De même que quand je disais que ça manquait de corps, on évoque les relations entre Picasso, Picabia, Duchamp, là. Mais ça aussi, effectivement, au lieu de pousser vers un accrochage un peu chic de chef-d'œuvre, ça aurait peut-être été bien d'aller rechercher, d'aller voir en quoi et comment se sont incarnés physiquement et intellectuellement et visuellement ces liens très très complexes, très très féconds, d'autant que chez Apollinaire, il y a quand même, et ça aussi, c'est un grief, je crois qu'on peut retenir à l'encontre de l'exposition, c'est que Apollinaire, c'est vraiment un commentateur de la vie moderne, mais c'est aussi un imaginaire fécond aux ramifications absolument insondables et multiples. Cet insondable, ben, on n'arrive pas trop à l'accrocher et je crois que c'est un manque.
Ça manque de jus, l'exposition Apollinaire, entendez ça comme vous le voulez. Mais bon, voilà.
Il y a des gouaches d'Apollinaire et des lavis aussi.
Oui, aussi.
Une petite feuille de laurier, de Picasso, dédié à Apollinaire. C'est très joli, ça.
Apollinaire, le regard du poète, c'est au musée de l'Orangerie à Paris jusqu'au 18 juillet. Puis donc, il y a catalogue édité pour l'occasion par le Musée d'Orsay de l'Orangerie et les éditions Gallimard.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de l'exposition du Petit Palais, l'artiste photographié. Avant cela, nous retrouverons l'invité de la dispute, la soprano Patricia Petitbon. Nous évoquerons aussi une exposition de Charles Mason à la galerie Thomas Bernard et Jean Genet, l'échappée belle au Mucem. Pour l'heure, échappons-nous dans les pages des journaux avec Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Cela faisait longtemps, trop longtemps, que Luc Ferry ne nous avait réjoui avec ses saillies contre l'art contemporain. Il vient de se dégoter un allié de poids et s'en est ouvert jeudi dernier dans le Figaro. C'est un constat banal mais vrai, écrit-il. Les régimes totalitaires semblent tous avoir eu pour première et constante préoccupation de s'en prendre à l'art et à la culture. Daesh détruit les chefs-d'œuvre de Palmyre comme Staline les églises, Mao les temples, Hitler les livres, tandis que Castro brisait les doigts de ses opposants musiciens. Notre Occident libéral s'est de tout temps révolté contre ces pratiques immondes, soucieux qu'il était de protéger les monuments anciens comme de faire droit aux œuvres contemporaines. Loué soit-il, reste qu'à en croire l'un des plus grands écrivains de notre temps, Mario Vargas Llosa. Oui, Luc Ferry écrit Mario Vargas Llosa. Cette sacralisation de la culture n'en dissimule pas moins une vaste entreprise de démolition menée certes à bas bruit, sans violence physique, mais néanmoins avec pour résultat de liquider systématiquement dans la tête de nos enfants comme du grand public tous les critères de beauté et de sens qui permettaient aux œuvres d'art authentique d'être reconnue comme telle, car c'est bien là, selon lui, le principal effet de la glorification officielle du n'importe quoi dans l'art contemporain. On peut parier que Luc Ferry n'invitera pas Mario Vargas Llosa à l'accompagner à l'inauguration du futur musée de la Fondation Pinault dans l'actuelle Bourse de Commerce à Paris, dont l'annonce, confirmant un scoop des Échos 10 jours auparavant, a fait les gros titres de vos journaux, ce qui a rendu presque invisible l'annonce d'une autre installation beaucoup plus surprenante, celle d'un artiste contemporain dans un pays pas très démocratique pour le coup. Réputé pour son artisanat, la ville de Kashan en Iran pourrait attirer l'attention pour une autre raison. L'artiste belge Wim Delvoye prévoit d'y ouvrir son propre musée, nous apprend Nathalie Hex dans le Journal des Arts. Il rénove actuellement 5 anciennes maisons de marchands dans cette oasis au milieu du désert, à 250 km au sud de Téhéran, révèle The Art Newspaper. Les 3 plus grands édifices, Eshmatollah, Bani Kazemi et Hosseini, du nom de leurs anciens propriétaires, sont reliés entre eux. Eshmatollah deviendra une galerie de 900 mètres carrés qui accueillera ses œuvres, aux côtés d'œuvres d'artistes iraniens et internationaux. Les 2 autres seront des hôtels. Wim Delvoye prévoit même d'installer son atelier dans cette ville historique de plus de 300 000 habitants et emploie déjà plus de 20 personnes. L'artiste compare son projet à la galerie de Newport Street, créée par Damien Hirst, et au musée construit par Thomas Schütte à Hombroich, à ceci près que ces artistes ont choisi leur pays d'origine alors que le Belge s'installe en Iran sans raison apparente. Amer, il rappelle en effet au journaliste Tim Cornwell l'échec de son projet de parc sculptural à Gand qui s'était soldé par le paiement d'une amende de 45 000 euros. Un autre artiste anglais, celui-là est honni par Luc Ferry et consorts, est parti pour garder lui aussi un souvenir amer de l'installation publique d'une de ses œuvres, une sculpture controversée sur le point d'être réformée en attraction populaire pour égayer les dimanches au parc. Un clash au combien contemporain entre l'artiste, le politique et le mercantilisme, commente Florentin Collomb dans le numéro du Figaro où figure la diatribe de Ferry. Anish Kapoor est en effet furieux contre Boris Johnson. Le maire conservateur de Londres a décidé de transformer son œuvre The Orbit en un toboggan géant pour booster ses revenus commerciaux. Aimé ou le plus souvent détesté, l'édifice de 114 mètres de haut a fait son apparition à côté du stade olympique lors des Jeux de Londres de 2012 et déjà fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Structure forme d'acier rouge enchevêtré surmontée d'une plateforme d'observation. L'œuvre a été critiquée comme une folie de Boris, mais pour rendre grâce au sponsor qui a supporté la majorité de son coût de 25 millions d'euros, elle a officiellement et fort poétiquement été baptisée ArcelorMittal Orbit. Cela devait devenir une sorte d'emblème culturel du redéveloppement de l'East London, équivalent de Big Ben, ou plus récemment de la grande roue Coca-Cola London Eye à l'ouest. Là, une fois les jeux terminés, les visiteurs ne se sont pas bousculés dans le Queen Elizabeth Olympic Park, qui a d'ailleurs subi des années de travaux. L'orbite est loin d'avoir attiré les files de visiteurs prévues dans son budget, creusant un trou de 12 000 euros par semaine dans les finances municipales. Or, dans un pays aux fonds publics limités, la rentabilité n'est pas un vain mot, d'où l'idée de Boris Johnson, jamais en retard d'une facétie, de modifier l'objet artistique non identifié en toboggan. Il faut dire que sa forme s'y prêtait parfaitement. Anish Kapoor a crié au vandalisme. La star de la scène artistique britannique a accusé le maire de lui avoir caché ses intentions dès l'origine de la création de l'orbite. Mais après un an de bataille, il a fini par se ranger à la nécessité commerciale. Il a donc fait appel à son confrère, l'artiste allemand Carsten Oehler, justement spécialiste en toboggan, pour transformer son œuvre sans abdiquer son honneur. La glissade de 40 secondes le long des 178 mètres et 12 virages de l'œuvre dans l'œuvre coûtera la bagatelle de 17 livres, soit 22 euros. L'objectif est déjà partiellement atteint. Les réservations pour le week-end d'ouverture le 24 juin, au lendemain d'un renversant référendum sur l'Europe, sont déjà quasi complètes. Anish Kapoor a enterré la hache de guerre avec Boris Johnson et promis d'emmener le maire pro-Brexit pour une descente ensemble, espérant atterrir fermement en Europe. Il n'a en revanche, selon nos informations, lancé encore aucune invitation à Luc Ferry. C'est peut-être pour ça qu'il boude.
Ah, c'est de plus en plus compliqué. Moi, je crois qu'il était furieux contre Carsten Oehler parce qu'on mettait son toboggan dans son... Enfin bon, bref. Boris Johnson, que je sache, il sera plus maire de Londres dans quelques jours, non? Donc, il fait encore des histoires juste avant de partir. Frédéric Bonnet, non? L'agenda culturel londonien
Oui, non, l'agenda culturel londonien m'intéresse moyennement. Effectivement, ça serait peut-être bien d'y mettre Luc Ferry et puis de lui faire faire quelques tours de manège, parce qu'apparemment, on en est encore à radoter. Parce que là maintenant, ça devient clinique.
Oui, c'est de l'élite précoce.
C'est clinique, on radote, parce qu'il n'y a aucune idée à nous ressortir l'idée du bout, du machin. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, comme il a décidé d'être aveugle, qui continue, et puis voilà. Donc, dans quelques mois, comme on l'aura encore oublié, il ressentira la nécessité de ressortir, et il ressortira une nouvelle tribune aussi pathétique que celle-là, jusqu'à la suivante. Voilà, c'est un événement, en fait.
Bon, ça, c'est une bonne chose comme ça. Wim Delvoye en errant, c'est surprenant, c'est normal, c'est un lieu où il peut aller, c'est fait meilleur qu'à Gand, peut-être, aussi.
Non, alors je m'interroge tout le monde depuis que cette information est sortie. J'avoue que je sais pas du tout comment le
apprendre
et quoi en faire.
Ça fait penser à Depardieu chez Poutine, vous voyez, un côté comme ça, quoi. La provoque, la surenchère.
Il est opportuniste.
Oui, c'est ça. Wim Delvoye est suffisamment opportuniste pour.
C'est ça, la
grâce. Je pense qu'il faut pas aller chercher très loin.
Oui, voilà.
C'est pour faire un pied de nez aux autres, quand même aussi. Il y a de la provoque là-dedans, non?
Ou non, mais non, je crois pas.
Opportunisme.
Non, ça peut devenir effectivement de la... Non, mais l'opportunisme est provocant, enfin, par essence, enfin, je trouve, quoi. Mais ça, c'est... Ça de toute façon, vous savez, comme disait Cocteau, hein, le drame aujourd'hui, c'est que la bêtise pense, hein.
Gardez cette phrase, vous avez des infos complémentaires, Antoine Guillaume?
Non, pour rappel, parce que je l'avais déjà signalé dans une revue de presse, Wim Delvoye est exposé en ce moment même au musée d'art contemporain de Téhéran.
Mais bon, pas les cochons.
Il n'a pas pris les cochons tatoués, et bientôt il sera au musée d'art contemporain d'Ispahan, donc il y a déjà une longue histoire avec l'Iran.
Bon, c'est en route.
Oui, non, voilà. Moi, je pense aussi qu'il y a mais quels sont exactement les tenants et les aboutissants, je ne sais rien, mais je crois qu'il y a une part d'opportunisme.
Oui,
il y a
un effet d'opportunité, comme on dit dans ces cas-là.
Il nous avait déjà fait le coup, justement, de l'immense ferme à cochons en Chine pour fabriquer ses cochons tatoués. Ouais. Ça ne m'étonne pas plus que ça. D'un coup, l'Iran
se place sur la carte des arts.
Il y a des nouveaux accords qui sont passés avec les pays occidentaux. Bon, voilà. Voilà, il place ses pions, il fait parler de lui, voilà.
Très bien, et puis quant à la Fondation Pinault et son implantation parisienne, on aura tout l'occasion d'en parler, puisque c'est ouverture prévue, possible, envisageable, fin 2018, ça laisse un peu de temps. Enfin, on peut quand même s'en réjouir, non?
Oui, tout à fait, c'est quand même une collection...
Majeure de notre temps.
Oui, assez exceptionnelle, donc Pinault avait raté l'île Séguin, s'en souvient.
L'île Séguin avait raté Pinault, surtout.
L'île Séguin avait raté Pinault, maintenant il revient. En même temps, c'est un beau pied de nez, parce que effectivement, l'île Séguin a raté Pinault, là il revient en plein centre de Paris, dans un bâtiment emblématique.
L'île Séguin est toujours en déshérence, enfin il y a un retard considérable sur ce qui va arriver un jour, l'île Séguin.
Ben, complètement. Ça, on n'en sait rien. Parce qu'avec les ennuis judiciaires d'Yves Bouvier, le R4 est un petit peu à l'arrêt. La directrice des lieux a beau dire que ça n'est pas lié. On y croit beaucoup. Bon, voilà.
Quand on pense que ça fait quand même 10 ans que.
Oui,
c'était il y a 10 ans que François Pinault avait dû jeter l'éponge du côté de l'île Seguin. Donc, on voit que ça n'a pas beaucoup avancé de ce côté-là. Bref. Allez, revenons au présent, au concret, au MUCEM. Un musée qui a fait couler beaucoup d'encre avant qu'il n'ouvre, mais enfin voilà, il continue sa vie. Et vous êtes allée à Marseille, Corinne, pour découvrir l'exposition Jean Genet, l'échappée belle. Qu'est-ce que c'est que cette exposition ?
Bien d'abord, au Fort Saint-Jean, et ça tombe bien. C'est le bâtiment qui est, il y a son phare, et puis ça donne sur la mer. Et donc on doit dire que, faut pas oublier aussi que c'est la tombe de Genet est au Maroc, dans un cimetière espagnol, et qui est allée face à l'océan. Donc je trouve que c'est un beau lieu pour... Et c'est un petit lieu aussi, c'est 300 mètres carrés. Mais c'est aussi... il est mort il y a 30 ans. Il a disparu il y a 30 ans. Et c'est en 86 aussi que j'ai découvert son nom sur un graffiti d'une rue à Marseille, entre le cours Julien et la rue Estelle, où je passais pour prendre mes cours de philo. Et je dois dire que j'y suis allée parce que c'est le premier choc de ma vie, la lecture de notamment Pompes funèbres. J'ai découvert qu'une lecture pouvait tomber dans les nerfs, et puis que dans les coins les plus sombres de l'histoire, comme du corps, on pouvait trouver d'une mauvaise odeur le plus grand lyrisme, et que Genet était pour moi l'écrivain qui était capable de fabriquer une étoile sans passer par le romantisme d'un ciel étoilé. Donc j'ai un grand respect pour cet auteur, même s'il a été aussi un auteur scandaleux. Et c'est important aussi de retrouver 30 ans après ce qu'a été la vie d'un auteur à scandale, enfin quelqu'un qui a créé beaucoup de polémiques. Et cette exposition est assez formidable parce qu'elle est petite, mais en même temps elle vous accueille face à un Giacometti, un homme qui marche, celui qui a eu ce rapport, c'était le seul homme qui a jamais admiré, dit-il, Genet, Giacometti, et il y a eu un rapport très fort entre les deux hommes, il y a un portrait aussi. Mais c'est en passant tout de suite à droite, il faut aller voir les lettres que sa mère a laissées, ces lettres que lui-même n'a jamais lues. Puisqu'en fait, elle a laissé son enfant, Jean Genet, à l'assistance publique à l'âge de 7 mois. Et donc on voit tout l'amour que cette mère a, et la tristesse et la peine que cette mère a laissée, puisqu'elle n'avait que 2 francs 50 en poche, disant que je ne pouvais pas subvenir aux besoins de son enfant. Alors ça c'est très beau, c'est très fort, c'est manuscrit, et l'exposition est très belle parce que d'une certaine manière, on a 3 sections. Bien sûr, la pupille de la nation qui va être celle qu'on connaît, mais aussi, comme il le dit, ma condition d'enfant naturellement humilié. On voit après tout ce qu'a été cet homme très nerveux, très engagé, militant à la fin de sa vie, sur les 25 ans. Et donc les 3 sections qui sont en jeu, c'est d'abord le journal du voleur. On a la première édition, les textes, puisque c'est un travail qui est fait avec Albert Dichy, le directeur de l'IMEC,
directeur littéraire de l'IMEC,
et puis Emmanuel Lambert, qui dirige notamment le petit catalogue, qui est absolument formidable, édité par Gallimard et l'IMEC. Il faut l'acheter parce que ça ressemble pas à un livre de Gallimard. Il est là pour le coup, c'est revivre l'exposition sans avoir besoin dans l'exposition d'avoir le catalogue. Et donc, c'est 3 sections, 3 entrées. C'est 49, le journal du voleur, l'Espagne. C'est 61, c'est les paravents, c'est-à-dire l'Algérie, et le spectacle en 66 à l'Odéon. Et on va voir des extraits. Et c'est retranscrit dans le catalogue de Jean-Louis Barrault, qui était notamment le directeur de l'Odéon et qui jouait dans les paravents, alors qu'il avait... la première fois refusé de jouer les paravents pour grossièreté, mais en fait, et c'est ça qui est formidable, ce qu'on peut entendre aujourd'hui, à l'époque, ce qu'on peut voir aujourd'hui, et du théâtre, mais aussi de ce qui se passe sur le fait d'interdire le théâtre, ça m'a un petit peu réveillée. Et puis la 3e section, c'est évidemment... tout ça est tout ouvert, c'est 3 points, 3 entrées, mais c'est tout ouvert, vous circulez, et c'est Le captif amoureux, Dieu si j'aime ce titre, c'est le Moyen-Orient, c'est 86 titres posthumes, hein, donc il a passé sa vie, et vous avez des tas de des lettres manuscrites, cette petite écriture fine, élégante, et en même temps... d'autres textes. Alors, vous avez le plaisir de lire ces lettres. Vous avez le plaisir de voir aussi son militantisme, les Black Panthers, etc. Lui, 81, dans un jardin où il parle de la prison et de cette... la colonie agricole de Maitré dans laquelle il a été enfermé. Il dit des choses très belles. Il dit finalement, ces jeunes qui sont dans ces prisons, finalement, on les châtre de leur poésie aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire réinsérer ? Peut-être que c'est un outrage. Alors on retrouve des choses absolument admirables et des choses de Jean-Louis Barrault. Je n'ai pas le temps de le dire, mais il dit le théâtre est un état indépendant qui devrait être reconnu par l'ONU. Et je m'arrête là. 100 mètres carrés de liberté. C'est toute l'humanité.
Jean Genet, l'échappée est belle, très belle selon Corinne Rondeau, c'est au Fort Saint-Jean, Mucem, à Marseille. C'est jusqu'au 18 juillet qu'on peut découvrir cette exposition et donc se procurer le catalogue si on peut ou si on ne peut pas aller à l'exposition.
Ah, il est complètement
indispensable. J'ai bien compris, je le note, je m'en occupe. Early Works, Charles Mason, Galerie Thomas Bernard, jusqu'au 14 mai, donc quelques jours encore. Pour aller voir cette exposition. Et pourquoi, Frédéric Bonnet ?
Et parce que c'est une des choses les plus curieuses que j'ai vues à Paris depuis quelques temps. Charles Mason, c'est un artiste anglais qui est né en 1962 et qui s'est donné la mort en 2013, après le suicide de son épouse. Et son épouse était une metteur en scène très connue au Royaume-Uni et leur relation personnelle a beaucoup influé sur le développement de la sculpture et du dessin de Charles Mason. Et ce qu'il y a à voir dans cette exposition, c'est des œuvres essentiellement des années 90, des dessins faits à l'aérographe et des sculptures. Et sont toujours des formes d'une froide maîtrise. C'est parfait, c'est lisse, c'est brillant. Et en même temps, il y a un côté organique. Il y a des objets qui s'interpénètrent. Il y a des objets qui s'enlacent d'une curieuse manière. Donc c'est lisse et en même temps, ça ne l'est pas. Et c'est ça qui est assez fascinant. Les dessins, vous percevez que vous avez affaire à des espèces d'imbrications de morceaux de corps, mais rien n'est jamais donné à lire directement. C'est toujours des évocations et c'est assez assez fascinant parce qu'en plus de ça, le résultat esthétiquement, plastiquement est assez parfait et en même temps vous tient en permanence dans une interrogation de mais qu'est-ce que c'est au final? Notamment, il a travaillé avec, là il y a plusieurs pièces comme ça, avec des ballons, les ballons que vous gonflez, remplis de plâtre et recouverts de résine, et ça donne des choses assez étonnantes. C'est lisse, c'est brillant, et puis d'un coup c'est figé, et vous y rajoutez un dossier de chaise, et alors là ça vous emmène dans un territoire à la fois corporel et à la fois complètement inconnu. Voilà, c'est une exposition très très curieuse, remarquablement accrochée. Et c'est un artiste assez méconnu ici, et je pense qu'il faut absolument aller voir ça.
Aller voir ça à la galerie Thomas Bernard, c'est rue des Arquebusiers, dans le 3e arrondissement de Paris. C'est l'exposition de Charles Mason jusqu'au 14 mai. Dans quelques minutes, nous parlerons d'une exposition au Petit Palais, dans l'atelier d'artistes photographiés. Avant cela, l'invité de la dispute cette semaine, Patricia Petitbon, la soprano dont vous pouvez retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanteur, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ?
Patricia Petitbon, on poursuit cette semaine avec vous dans le domaine, lui aussi immense, des arts plastiques. Voilà, dans toutes ces acceptions, est-ce qu'il y a des repères pour vous, des artistes, des rencontres qui ont un peu façonné aussi votre esprit.
C'est vrai que c'est bon. Alors voilà, ces dernières années, je me suis passionnée pour un artiste. Clé du Land Art, qui s'appelle Andy Goldsworthy, artiste britannique, qui est justement dans cette idée de mutation. Alors, il va utiliser des éléments de la nature, les planter quelque part, comme par exemple des cairns, qui sont des sortes de trous noirs, donc immenses. J'ai lu qu'il avait fait un cairn à Chaumont-sur-Loire. Donc il fait un triptyque, vous voyez, entre l'Espagne, l'Australie et la France. Et donc ce sont plusieurs cairns dans différents matériaux. Et il les imbrique soit dans les souches d'un ancien arbre, au bord d'une rivière ou dans le granit ou
enfin, il y a un figuier étrangleur qui arrive. Et donc, je trouve ça très intéressant parce que d'abord, c'est l'humilité de l'artiste qui s'intègre dans les éléments de la nature et qui accepte la transformation. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce que même dans la vie, enfin, d'un point de vue philosophique, c'est très intéressant. Il faut accepter cette transformation, c'est la transformation de l'âge, transformation du moment, acceptation de tout ce qui nous entoure, de ce qui peut pas changer aussi, l'injustice, la souffrance. Et donc, d'une certaine façon, ça, bah, vous évoluez, vous vous transformez de façon très harmonieuse aussi. Donc voilà, alors moi je me suis passionnée pour cet artiste, je trouve que c'est dans l'air du temps aussi, c'est assez fascinant, ces grandes constructions, c'est poétique, c'est visionnaire, et puis c'est organique quelque part, c'est utiliser des matériaux comme les arbres, les branches qui vont, au lieu de pourrir, vont se régénérer d'une autre façon. Bon, c'est un poète, hein. c'est un très très grand poète. Il n'y met pas les mots, mais il y met des mots qui se touchent, quoi.
Et un très beau documentaire sur Andy Goldsworthy dont le titre et le réalisateur m'échappent, mais on va rajouter ça sur notre site internet parce que ça, on le voit à l'œuvre et c'est vrai qu'il a aussi un propos lumineux sur son travail.
C'est le temps qui exerce son œuvre et je crois que ça, c'est une très très belle leçon. De comment survivre dans cet espace-temps et sur Terre, et au-delà même.
Et vous avez un goût pour une période ou une autre, on dirait des beaux-arts classiques, Patricia Petitbon? Est-ce que vous allez dans certains musées où vous avez vos habitudes?
Quand je suis à Madrid...
Le Prado.
Je vais au Prado. Ah ouais. Bon, j'ai vu les expositions évidemment de Picasso... J'ai beaucoup d'admiration pour les peintres espagnols, les Catalans, tout ça, Miro. Oui, je trouve que l'Espagne, Goya, Velázquez, c'est une très très grande force. Bon, mais pas seulement, hein, évidemment, j'aime les Français. Mais
un goût particulier quand même pour les Ibériques.
Oui, oui, j'aime.
Dans leur force,
j'aime,
leur
oui,
puissance.
Dans le duende, comme on dit.
La duende.
Dans l'art duende, dans le duende, dans cette chose, bah, toujours ce côté endogène, profond. C'est vrai que Picasso l'incontournable, Picasso enfant, Picasso adolescent, Picasso à la fin de sa vie, qui évidemment... Alors, j'ai pas vu la dernière exposition, j'en ai vu quelques extraits, mais d'une très grande force, parce qu'évidemment, il met aussi la force sexuelle au centre de son œuvre, et beaucoup à la fin de sa vie, donc ça fait évidemment encore scandale, où on peut le traiter de sénile et tout, mais c'est impressionnant, je veux dire, même avec un génie comme Picasso... où on ne voit pas du tout le côté complètement visionnaire. Et puis, oui, il voit aussi, à travers comme une boule de cristal, l'être humain, c'est ça. Ce sont des artistes qui sont capables de toucher vraiment la matière de l'être humain dans sa propre chair.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques pour découvrir la nouvelle exposition du Petit Palais à Paris dans l'atelier « L'artiste photographié, dingue à Jeff Koons », titre assez explicite, reste tout de même à en savoir plus. Thank you. Le Petit Palais propose donc un parcours en 400 et quelques photographies. Alors, des ateliers d'artistes, des artistes au travail. Alors, on voit Ingres, Jeff Koons, ça c'est dans le titre. Et puis, beaucoup d'autres. On va retrouver Picasso, de façon, qui est toujours là. Matisse aussi, très souvent.
Bordel. C'est un peu l'horreur en ce moment.
Oui, beaucoup. Picasso, et puis, il y a Barcelo aussi. Donc, là, c'est bon. Zadkine, Bordel.
Hein.
Oui, non, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Il faut dire que depuis l'invention de la photographie, c'est vrai que les séances dans les ateliers, évidemment, c'est un passage absolument obligé, comme si l'image fixe pouvait renseigner quelque chose de la création en train de se faire, ou si capturer l'image de l'artiste dans son atelier allait nous apprendre des choses sur sa création. On va voir ce que vous en pensez autour de cette table. Je précise quand même avant cela que les commissaires de cette exposition sont Delphine Devaux, Susanna Gallego-Cuesta et Françoise Reynaud. Frédéric Bonnet pour entrer à votre suite dans le Petit Palais.
Alors moi, la première chose, il y a une chose qui m'étonne toujours quand je repense à cette exposition, très agréable à visiter, mais qui a quand même pas non plus fait ma semaine, c'est l'absence de femmes. Justement, alors je le conçois évidemment complètement s'agissant du 19e siècle. À propos du 20e et du 21e, j'ai quand même beaucoup plus de mal à me demander. Je ne peux évidemment pas taxer de machisme les trois commissaires qui sont des femmes. Alors je me demande, est-ce que les photographes qui se sont intéressés à ce sujet des ateliers sont eux des véritables machos? Je sais pas, je laisse l'interrogation en suspens, mais ça m'a énormément étonné, d'autant que le préambule de l'exposition avec ces six grandes photographies panoramiques de Gauthier Deblond qui est allé photographier les ateliers vides de toute personne, donc les ateliers au repos, on va dire, de Soulages, de Jeff Koons, de Elsa Scali, de Barcelo, Ron Mueck, je sais plus qui d'autre, et Kapoor, évidemment, il nous fallait Kapoor. Là, c'est des photos qui sont très très récentes. Il y en a six comme ça en ouverture. Il n'y a pas un atelier de femmes. On a bien compris que on est là dans le top du marché, hein, les artistes très très powerful, en citant tous ces artistes là. Mais même en restant dans le top du marché et les artistes powerful, je sais pas, on aurait quand même peut-être pu aller voir du côté de chez Cindy Sherman s'il se passait pas quelque chose, ou du côté de Jenny Holzer ou Cherry Levine.
Enfin, même aller être messager pour aller moins loin.
Être messager pour aller moins loin, absolument. Voilà, donc ça m'interpelle toujours, ça m'interpelle beaucoup. Et la deuxième réflexion que me provoque cette exposition, c'est qu'en fait, sur ce sujet-là, on est quand même beaucoup et essentiellement dans des questions d'un rapport au pouvoir et à la puissance. Il y a beaucoup de représentations qui sont des représentations absolument mises en scène, surtout toute la première partie. Hein,
y a partie historique.
Il n'y a rien de
saisi voilà, sur le vif. Hein, on est vraiment dans la pose.
Il n'y a rien sur le vif. On est dans des représentations. D'ailleurs, le sous-titre de cette partie-là était assez juste, l'artiste en majesté.
Oui.
Et il y a vraiment quelque chose de prendre la pose pour affirmer une posture et affirmer, tant qu'à faire, une certaine posture d'autorité et de pouvoir. Quant à savoir si la photographie dans l'atelier permet au final de se rendre compte de comment on y travaille, ben pas tant que
non.
Ça.
Arrêtons le suspense.
Je trouve qu'au final, ce qui fait le mieux le job sur le sujet, c'est les magazines, c'est Paris Match. Parce que Paris Match s'intéresse vraiment à la cuisine et à aller voir comment on fait les choses. Et c'est finalement dans Paris Match qu'on voit on arrive à s'approcher un peu plus de effectivement comment sont faites les choses, mais sinon c'est vrai que c'est pas en allant arpenter cette exposition qu'on va ressortir illuminé et complètement éclairé sur comment ça se passe dans un atelier d'artiste.
Oui, et puis il faut dire on l'a compris à l'énoncé des noms de cette exposition que c'est une période historique extrêmement, enfin très vaste, hein, puisque c'est vraiment de l'invention de la photographie. Donc ça va commencer à faire. pour ça qu'on a même Ingres, même s'il est un peu vieux, il est à sa fenêtre. Enfin bon, là, on est vraiment dans la pause, effectivement. Mais on a, enfin, jusqu'au plus récent que vous avez cité, il y a quand même Joan Mitchell. C'est la caution non, féminine.
Il y a Louise Bourgeois.
Oui, Louise Bourgeois. Bon, il y en a vraiment.
Il y a deux.
Florence Henry,
Jeanne. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon.
Il y en a quelques-unes, mais bon, globalement.
On peut pas dire qu'on soit effectivement inspiré par les femmes. Non, après, qu'est-ce que ça raconte ces photos-là? Il y a des modèles. Ça, il y a beaucoup de femmes plus ou moins habillées. Et puis, non, l'image qui est saisissante, mais qu'on connaissait le plus souvent, c'est celle de Francis Bacon dans son atelier. Ça, c'est quand même terrible. Non, Corinne Rondeau, vous levez les yeux au ciel. Ça vous agace?
Oui, non, mais c'est sans doute les plus connues, les moins intéressantes. Moi, je m'attendais en fait à ce qu'il y ait de la peinture. En fait, il y a un tableau ou deux, quelques films, pour justement montrer la vie dans l'atelier, quelque chose qui touchera la création. C'est Gérard Rondeau et Ray Berol. Mais, alors, je dois dire que moi, j'étais un petit peu sur le suspens en sortant, d'autant que je n'ai pas compris la dernière salle du tout. Par contre, l'avant-dernière salle, je l'ai trouvée très intéressante parce que d'un coup, c'est joué quelque chose. C'est dans l'atelier, effectivement, et on est avec le médium photographique qui va, effectivement, c'est le miroir. C'est-à-dire que ça parle plus de photographie que de peinture. Ah oui. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que les photographes ont les récits et sont la mise en œuvre même du langage à travers l'imaginaire de l'atelier pictural. Brassailles, quand on lit des textes de Brassailles sur les peintres qu'il photographie, vous avez un monde imaginaire qui d'un coup lève la photographie. Ça, c'est intéressant parce que la valeur photographique est une valeur d'abord publicitaire. C'est-à-dire qu'elle raconte à la fois ce lieu de création, en même temps qu'elle le montre, elle cache la création. Elle ne l'exprime pas. Et très rapidement, dès la deuxième salle, vous avez des cartes de visite. Des cartes de visite avec la photo où il y a Courbet. Hein. Vous avez une carte aussi d'album de Sarah Bernard. Vous avez donc d'un coup la valeur d'exposition de la photographie qui est là. Elle est en train de dire c'est de la publicité. Voilà. Le registre de la photo, c'est une mise en scène de ce lieu mystérieux de la création qui va maintenir le mystère de la création. Y compris quand justement il y a ce jeu de la mise en œuvre et la manifestation du décorum, hein, où on voit très 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 clairement l'appareil photographique qui lui-même va être photographié dans le décorum et on voit les tringles qui tiennent le décor derrière, etc., etc. Donc cette mise en œuvre de la peinture par la photographie est déjà une mise en miroir d'un médium par l'intermédiaire de l'autre. Et il faut bien se dire que quand même, la photographie à cette époque-là, au début de la peinture, de la photo, elle est en train de chercher une légitimation aussi. Et que s'approcher de l'atelier du peintre est une manière, hein, de se poser la question de son propre statut d'inventivité, de création, et qui passe là, pour le coup, sur une forme organisée, documentaire, tout en essayant de montrer justement ce qui s'y passe. Alors on peut avoir le goût et le plaisir d'y voir des détails, ces orientalismes d'atelier parfois. Moi, j'ai bien aimé en fait alors effectivement ces grandes photos contemporaines qui est un symptôme du Grand Palais en face, hein, il faut le dire, pour le Petit Palais qui n'a pas besoin de ça. Le Petit Palais est un formidable lieu qu'on redécouvre grâce à ces expositions temporaires qui sont de mieux en mieux, je trouve, et qui prennent des risques, c'est le cas ici. Donc ces grandes photos panoramiques de Gautier de Blonde. Finalement, de l'autre côté, d'un coup, on a les photos anonymes de l'atelier de Mariano Fortuny. D'un coup, on est voilà dans un environnement. Qu'est-ce qui se passe? Et là non plus, il n'y a pas le peintre. C'est des environnements vides, mais on y voit effectivement la personnalité. Alors, c'est la personnalité d'une époque orientaliste. Et de l'autre, on a des personnalités, des singularités, des artistes. On reconnaît du Soulages, on reconnaît Mueck, on reconnaît Kapoor. Ils sont pas là, mais on les... l'atelier de Kuhn, c'est parfait. C'est l'industriel. Non, c'est par contre, c'est plutôt l'atelier où tout le monde va travailler à son endroit. Kapoor, c'est l'industrie. Donc, il y a un cheminement qui n'est pas inintéressant. On se perd un peu au milieu de tout ça, tout de même. J'ai retrouvé un goût avec le modèle. Il y a des autochromes en stéréoscopie qui sont absolument formidables, dont un nu allongé, des bras derrière. C'est la première fois qu'en plus j'ai une stéréoscopie qui fait vraiment le relief. J'étais tout en jaune, j'y suis restée 10 minutes à regarder ce nu. Ou alors une photographie anonyme 1930 où on a des vêtements, des sous-vêtements, d'ailleurs c'est intitulé les sous-vêtements du modèle, qui sont posés à côté d'un pied et d'une main. Il y a un côté fétichisme là qui renvoie en fait de plus en plus à la photographie elle-même. Et d'ailleurs dans le catalogue ils disent, parce que moi j'ai cherché des photographies de Hugo Mulas, on les avait vues chez Cartier-Bresson récemment, donc ils n'ont pas pu parce qu'il n'y a pas de collection, dans les collections françaises il n'y a pas de photographies d'Hugo Mulas, d'artistes. Alors, en fait, cette exposition, ce ne sont que dans les collections françaises. Hein. C'est pour ça que peut-être ce que vous manquiez de... Donc, et effectivement, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Et d'une certaine manière, le travail d'Hugo Mulas, c'était aussi une manière de se poser la question de la photographie à l'intérieur de ce moment photographique où la photo elle-même devient photo et œuvre d'art. Et c'est là que, pour le coup, la Rondelle Universelle devient une salle intéressante parce que les artistes disparaissent complètement. Il y a des sortes de vanités qui, là, pour le coup, montrent que ces expositions, c'est pas sur l'atelier de peinture, c'est pas dans l'atelier de peinture, c'est sur la photographie elle-même.
Pas mieux, avec moi.
Non, effectivement, mais ouais, je partage complètement l'intérêt de Corinne pour cette salle photographique entre guillemets, parce que on y voit des choses magnifiques et qui vont justement où l'atelier n'est qu'un prétexte. Il y a quand même cette série magnifique de photos de Luigi Ghiri faites dans l'atelier de Morandi, où effectivement on a une atmosphère à la Morandi, on reconnaît Morandi, mais on est en plein dans la photo de Ghiri, comme il a traité des tas d'autres sujets. Et il y a aussi, que j'ai trouvé très intéressant, ce travail qu'a fait Joël Meyerowitz dans la reconstitution de l'atelier de Cézanne à Aix-en-Provence, où il y a une grande photo de l'atelier qui n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est ce qu'il en a fait après, où il a isolé objet par objet des petites photos.
Chapeau,
exactement. Et là, ça devient vraiment intéressant, alors que la photo d'ensemble n'a aucun intérêt.
Bon, allez voir quand même. Dans l'atelier, l'artiste photographié dingue à Jeff Koons, c'est au Petit Palais à Paris jusqu'au 17 juillet, un catalogue de l'exposition édité par Paris Musée.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, retour d'abord sur le jeu d'hier au soir, Antoine Guillot.
Grâce auquel vous avez gagné des DVD de The Other Side de Roberto Minervini, distribué par Shellac. Je vous avais demandé quel était ce film précédent de Minervini, qui voyait la rencontre entre une jeune fille et un jeune adepte de rodéo. Eh bien, c'était Le Cœur Battant, Stop the Pounding Heart en anglais.
Oui, à se procurer qu'on le gagnait ou pas. Hein. Ce soir, que gagne-t-on, Antoine?
Des livres de la nouvelle collection des Racines du Ciel de Frédéric Lenoir et Laëlie en Novar. Vous avez Sagesse pour notre temps, mais vous pouvez aussi avoir Voix d'Espérance. Le tout est une coédition France Culture et Alma Michel. À quel romancier l'émission de Laëlie en Var et Frédéric Lenoir emprunte-t-elle son titre?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Corinne Rondeau, Frédéric Bonnet, Antoine Guillot, d'y avoir préparé avec moi. Les informations sur cette émission à retrouver sur Internet, franceculture.fr, à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez vous abonner au podcast de cette émission, également nous écrire. Dispute possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Le Duo. Prise de son ce soir, Pierrick Charles, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, 21h, une dispute consacrée à la musique avec Véronique Mortaigne et Hugo Cassavetti. Notre affiche, un hommage à Prince. Puis nous parlerons de deux sorties, Hopelessness d'Anoni, l'ancien Anthony Egarty, et puis Morituri de Jean-Louis Murat. Nous retrouverons Antoine Guillot pour une revue de presse culturelle, les choix de Patricia Petitbon, invitée de la dispute, un nouveau cadeau à gagner. Tout ça, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, hors champ par Laure Adler, dans quelques instants, le journal de la rédaction.